En l'absence d'Hélène Bessette et avec Noël Renaud, Laure Limongi et Claudine Huneau, trois voix pour dire, lire et relire, sans doute la plus célèbre des écrivaines oubliées, celle qui fut à l'origine du roman poétique et que le nouvel Attila Othello édite et réédite dans son intégralité.
La compagnie des poètes, par Manu Farine.
L'insuccès, à mon avis, n'existe pas. Je veux dire, l'insuccès immérité n'existe pas. Le succès peut être tardif, mais il doit arriver, tôt ou tard. Je ne pense pas que ce soit la critique qui soit responsable, en premier lieu, de ce que j'appellerais l'insuccès momentané d'une œuvre. Je crois que l'insuccès d'une œuvre découle de l'œuvre même. Enfin, c'est une qualité intrinsèque de l'œuvre. Quand une œuvre est seule à être elle-même, quand une œuvre est insolite, il est normal qu'elle ne frappe que certains initiés, tout d'abord.
Bonjour et bienvenue à vous trois, Noël Renaud de Laure Limongi et Claudine Huneau. Ça n'est pas la voix d'Hélène Bessette qu'on vient d'entendre, mais ça viendra, évidemment. C'est celle, fort reconnaissable ma foi, de Marguerite Duras en novembre 1963, qui vient, un peu comme vous, défendre à la radio pour un numéro de l'anthologie insolite titré « Au hasard de l'injustice contemporaine », ce qu'elle nomme ses chefs-d'œuvre oubliés, parmi lesquels il faudrait absolument compter Lily pleure d'Hélène Bessette, donc son premier roman qui paraît en 53 chez Gallimard avec le soutien de Queneau, on y reviendra bien sûr. Lily pleure, par ailleurs toujours épuisée, enfin en tout cas qu'on ne trouve pas. Une première publication, Bessette a 35 ans à peu près, revenue de Nouvelle-Calédonie, qu'elle était partie évangélisée avec son pasteur de mari René Brabant, revenue écrivaine, divorcée et ayant perdu la foi. Qu'est-ce qu'on y trouve déjà dans ce Lily pleure qu'on ne trouve plus et qui fera l'écriture d'Hélène Bessette?
Je crois qu'il y a déjà le thème. Bonjour. C'est quand même pas rien en 53 de publier un roman sur un ravage mère-fille. C'est quand même, je crois, un sacré culot déjà.
Suivront donc 12 autres textes, hein, toujours chez Gallimard, jusqu'à Ida en 73, puis plus rien. Ou presque, hein, en tout cas l'oubli, jusqu'à un premier travail universitaire de Julien Doucineau, qui deviendra une biographie, hein, que vous allez publier également, Laure Limongi, aux éditions Léo Cher. Suivront 7 autres textes, toujours chez Léo Cher, dont La Tour, postfacée par vous, Noël Renaud. Puis, en 2017, La Relève, donc, avec Benoît Viraud, qui édite et réédite petit à petit, hein, je pense qu'on en a pour quelques années, aux éditions Le Nouvel Attila Othello, l'œuvre d'Hélène Bessette. Et puis, pour être tout à fait complète, il faudrait aussi dire que vient de se tenir un colloque, hein, c'était fin août à Cerisy, oui, dédié à l'écrivaine, dont vous fûtes, Claudine Huneau, l'une des organisatrices. Un mot peut-être sur ce qu'on vient d'entendre, sur la voix de Marguerite Duras et cette idée de d'un succès momentané et d'un succès mérité ou immérité, hein, un succès trouble en ce qui concerne Hélène Bessette, hein, puisqu'elle a été dans les années 60 très soutenue, notamment par Duras et bien d'autres, par Queneau, par Sarraute, qu'elle a été en lice quelques fois pour le Goncourt, pour le Médicis, et qu'en même temps elle a vendu très très peu, et c'est peu de le dire. Je crois même que Gallimard a fini par mettre ses livres au pilon, que Gallimard a rendu les droits aux enfants, ce qui a fait votre bonheur, Laure Limongi.
Tout à fait, je suis des lecteurs et lectrices.
Et depuis une dizaine d'années, hein, disons, la voilà exhumée, rééditée, commentée, mise en lecture, mise en scène. Il y aurait comme une petite communauté comme ça d'initiés qui grossit par capillarité, hein, qui ne cesse de se faire signe, d'admirer et puis de rappeler cet oubli dans lequel est tombée Bessette. Un peu comme si, au fond, à chaque fois qu'on parle de Bessette, il fallait commencer par ça, c'est-à-dire commencer par parler de cet oubli, commencer par parler de cet insuccès. Au fond, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de l'insuccès d'Hélène Bessette? Est-ce que ça n'est pas la plus fameuse des écrivaines oubliées? Est-ce qu'on parle vraiment d'une écriture orpheline, hein, comme dirait Queneau?
C'est un peu le sujet du travail de Julien Doucineau, qui peut pas être avec nous aujourd'hui, mais qui est quand même totalement avec nous aujourd'hui. Cette espèce de mystère, voilà, qui entoure cette disparition, en tout cas momentanée, de cette œuvre, en tout cas cet effacement relatif. qui effectivement, quand on la relit, est assez inexplicable, parce que dans le panorama culturel et littéraire de l'époque, Hélène Bessette avait évidemment totalement sa place au premier plan, avec beaucoup d'autres auteurs. Donc c'est assez inexplicable. Une des hypothèses possibles, c'est comme chacune ici le sait, la sortie des petites Lecoq. En fait, au bout de 3 livres publiés, comment dire, de facture assez, j'allais dire expérimentale, on va dire, ou exigeant, enfin bref, vous savez, ce genre d'adjectif, en tout cas très personnel, Gallimard lui fait comprendre que peut-être un livre un petit peu plus lisible serait bien, quoi. Et là, elle produit ce qu'elle appelle un livre de littérature lecture, donc quelque chose avec beaucoup moins de fantaisie typographique, mais on y reviendra sans doute. Ou disons que la veine de ce fameux roman poétique est peut-être un petit peu moins visible. Enfin, ça ressemble plus à un roman, pourrait-on dire. Et là, bam, je dis dans les grandes lignes, mais procès, livre retiré de la vente, alors que c'était celui qui commençait le mieux commercialement. Procès extrêmement dur à vivre pour elle, puisqu'elle a vraiment été attaquée dans sa légitimité, dans ses mœurs. Enfin, elle a été éreintée, en fait, pour que les attaquants gagnent ce procès. Et je pense qu'il y a eu, en tout cas, c'est ce qui semble, une sorte de rupture chez elle, qui fait qu'après, voilà, elle est restée dans quelque chose, dans son style, je dirais, sans se soucier. Elle s'est dit, bon, quand je me soucie de l'extérieur, j'ai un procès, donc on va peut-être arrêter de s'en soucier. Et ce qui fait que peut-être, elle s'est enfermée dans une sorte de marginalité ainsi. Bon, c'est une des hypothèses possibles.
Moi, il me semble qu'il y a une question importante, c'est qu'elle elle n'appartient pas. Et je pense qu'on est dans une période, dans toutes ces années 60, 80, de grande appartenance à des mouvements politiques, mouvements féministes. On va vers l'union de la gauche. C'est une période très particulière, aussi bien au niveau culturel que politique. Et elle se tient délibérément en dehors de ça. Elle maintient une ligne envers et contre tout, c'est-à-dire qu'elle va aller jusqu'au bout, elle va écrire très longtemps. Après les dernières publications en 73, elle va continuer à écrire. C'est donc que elle impose une autorité dans l'écriture qui va aller bien au-delà de l'arrêt de la publication. Et on n'est pas au bout, hein, comme tu le disais, Laure, d'épuiser la compréhension de ce que Duras appelle un insuccès, mais j'aime beaucoup qu'elle en fasse une qualité intrinsèque de l'œuvre. Le colloque de Cerisy, que Julien Doucineau, Cédric Julien et moi avons dirigé, il s'est tenu aussi pour ça, pour essayer de comprendre cette énigme littéraire d'une certaine manière.
Non, mais oui, il y a aussi, je pense, là, quand je suis tombée en 98 sur Ida ou le délire, je ne connaissais absolument pas Hélène Bessette.
Et, c'est un texte tardif.
Texte 73, c'était son dernier publié par Gallimard. Et c'est le premier que j'ai lu, et c'est une libraire, donc je lui rends hommage, hein, Michèle Ignazi, qui me parle d'Hélène Bessette. Je lui dis, je ne sais pas qui est Hélène Bessette. Et je la revois prendre un livre sur un rayonnage, me le donner, Ida ou le délire. Elle me dit, voilà, elle est morte en 72. Donc, il y avait cette erreur de... Et en fait, elle est morte éditorialement en 72, ou 73. Qu'après, on lui a quand même retiré tout avenir éditorial. Et donc, je lisais ce texte et j'étais totalement étonnée. Et je revenais constamment à la date de publication. Je me suis dit, mais elle vit aujourd'hui, cette femme, c'est pas possible. Et non, je revenais, c'était toujours 72. Et je pense que la qualité intrinsèque de l'œuvre de Bessette fait son insuccès. Alors ça, c'est vraiment clair et net. C'est-à-dire que je pense que même si Queneau et Duras l'ont soutenue, à un moment donné, ils ont arrêté de la soutenir. Est-ce que je pense que l'œuvre de Bessette est beaucoup plus dérangeante que celle de Queneau et celle de, même si j'aime beaucoup, hein, et celle de Duras. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait peur, parce qu'elle appartient pas au sérail, Bessette. Finalement, c'est une institutrice, enfin, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout germanopratine, enfin, voilà, elle n'est pas du tout dans ce milieu-là, et son œuvre est totalement obscène. Pour l'époque, je pense. Et après, on peut voir effectivement que tout est très contextualisé, c'est-à-dire que la condition féminine qui est très très qui est très marquée dans tous les livres est quand même une condition féminine qui date bien des années 60. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même. Enfin, on pourrait plus du tout écrire comme ça. Je dirais, c'est juste le petit penchant inférieur. Mais ça, on s'en fout. Enfin, moi, je veux dire, quand je le lis, je m'en fiche complètement. C'est autre chose qui est intéressant. Mais elle a effectivement c'est une novatrice absolument incroyable. Et après, peut-être aussi que son insuccès vient d'elle-même. Moi, je ne sais pas. Elle est teigneuse, elle est insupportable, elle est pas gentille, elle fait pas ce qu'il faut pour être là. Moi, comme je l'ai connue en 98 et qu'elle est morte en 2000, faisant mon enquête pour savoir qui était cette femme devant les rétentions de Gallimard qui ne me disait rien. Il y a juste la caissière de la librairie Gallimard, boulevard Raspail, qui me disait « Ah mais c'était une folle, vous pouvez pas vous imaginer, elle faisait peur avec ses yeux de glace. CNL, même chose, parce qu'elle allait chercher des subventions, des sous, elle avait un grand cabas. Et on me disait, elle faisait peur, elle arrivait, etc. » Elle a quelque chose de ténueux, enfin j'adore les ténueux, moi les écrivains ténueux. Et c'est une ténueuse, tenace, coriace, qui effectivement n'a pas voulu jouer le compromis. Et quand elle le joue avec les petites Lecoq, effectivement, il y a ce procès qui la déglingue totalement.
Puis il y a quand même une chose assez étonnante. Quand elle écrit par exemple La fête des fils, qui est un inédit, La fête des fils est en deux parties. Première partie, guerre d'Algérie, avec un regard très ironique. Grosso modo, les pères, ils ont eu leur compte. Allez, maintenant, on envoie les fils en Algérie, ça va être leur fête là-bas. Deuxième partie, c'est les événements de mai 68. Et elle écrit ça en août 68. C'est-à-dire que on a quelqu'un là qui est dans un rapport d'une intimité incroyable avec l'actualité de son temps, l'actualité sociale, culturelle, politique de son temps, qui ose écrire dessus, que je sache... Combien il y a eu de textes décrits sur les événements de 68 immédiatement après, enfin, et c'est un texte très fort.
Ce qui n'empêche pas, effectivement, comme vous le dites, Noël Renaud, que au fond Bessette se lise encore au futur, et donc à propos de lecteurs.
Dans ce genre de roman appelé de recherche, n'est-ce pas ? C'est un contresens de dire de recherche. Il ne s'agit pas de romans difficiles non plus dans ce genre de roman appelé également par contresens d'avant-garde. Ces romans ne sont absolument pas difficiles, qui sont en fait le fruit authentique de l'esprit lorsqu'il arrive à sa maturité, n'est-ce pas ? C'est un fruit naturel, en quelque sorte. Il ne s'agit pas de recherche, seulement on refuse de les lire par préjugé. Sinon, on n'a qu'à les ouvrir, et n'importe quel bachelier peut les lire. Ce n'est pas difficile, seulement il faut d'abord se soumettre à l'auteur, n'est-ce pas ? Quand on ouvre un livre, il y a une espèce de soumission. Et quand on ne l'ouvre pas ou qu'on refuse de l'ouvrir par préjugé, c'est simplement que par avance, on méprise la personne qui parle, pour une raison ou pour une autre.
La voix, enfin donc, la voix si particulière, hein, un peu flûtée, pointue, sèche, un peu dure aussi, cassante, la voix de Bessette, au micro de Jean Paget en 67, hein, dans Morceaux choisis, hein, qui sont vraiment des entretiens qu'il faut réécouter ou écouter absolument. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de l'ordre de la soumission à lire Bessette plus qu'une autre.
Je voulais juste évoquer peut-être un peu rapidement cette notion de roman poétique, voilà, justement, parce qu'elle invente une forme. Donc forcément, inventant une forme qui est visible quand on feuillette le livre, puisqu'il y a une invention typographique, on y reviendra donc tout à l'heure, voilà, c'est sûr qu'un lecteur doit forcément se soumettre à ce choix de l'auteur. Et donc il y a cette notion d'autorité qui, effectivement, chez Bessette est importante.
Oui, c'est un souhait qui est valable pour toute littérature. C'est-à-dire que j'ai aussi ce souci et je demande aux gens, aux acteurs, aux lecteurs, aux spectateurs de se soumettre, surtout aux acteurs, de se laisser faire par l'écriture. Alors la soumission, c'est très fort, mais quand on lit Bessette, moi quand j'ai lu Bessette, je lis et je ne lâche pas. Elle ne vous lâche pas. C'est-à-dire qu'on prend un livre de Bessette et puis on est obligé de... Elle vous épuise, elle parle d'épuisement elle-même, mais elle nous épuise parce que elle-même, elle travaille à cette cavalcade, à cette chevauchée incroyable, rythmique et elle est dans le halètement. Elle, comme vous disiez tout à l'heure, elle parle, mais il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou d'air. Et il y en a quand même dans les livres. Il y a beaucoup de... Les pages sont très, très, très aérées. Mais on le lit et elle ne vous lâche pas. Elle vous met à genoux et vous finissez le livre éreinté, complètement épuisé. Et on est obligé de se soumettre. Et comme toute littérature qui n'est pas une littérature, on va dire, facile, on peut aussi passer par des endroits d'opacité. Mais c'est pas grave, c'est-à-dire qu'on passe à travers ça et hop, on arrive après à un moment beaucoup plus lumineux, beaucoup plus clair, et puis on repasse par des zones d'opacité, des zones d'ombre. Et c'est oui, la soumission. De toute façon, je pense que tout texte est autoritaire et soumet le lecteur à ses règles.
C'est-à-dire qu'il y a elle épuise les possibilités du texte. Un peu comme Deleuze en parle à propos de Beckett d'ailleurs. C'est-à-dire, elle va forcer le mot, elle va forcer le texte, elle procède par hypothèse. Moi je trouve qu'un roman, c'est Garance Rose qui commence par « L'héroïne est absente ». C'est dingue de commencer un roman comme ça. On pose l'hypothèse, pas d'héroïne. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on avance, quoi? Et donc, il faut accepter de se laisser emporter d'hypothèse en hypothèse. On va au bout, donc on ne sait plus trop où on en est. 20 minutes de silence à l'intérieur, il y a « je ne sais rien, nous ne saurons rien, nous ne dirons rien ».
Le mystère demeure.
C'est pour ça qu'on n'y comprend rien.
Il faut souligner que c'est toujours avec des moyens de vocabulaire et langagier
très simple.
Une très grande simplicité, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est dans les situations, elle emmène le lecteur, mais elle, c'est pour ça qu'elle parle de bachelier aussi dans cet extrait. Vraiment, elle remonétise des mots très simples et c'est par montage, par juxtaposition que ça devient une langue B7.
Mais il y a une dynamique. Alors, quand tu disais, Noël, qu'on sort épuisé, oui et non, parce qu'en même temps, c'est une écriture d'une dynamique folle. C'est très drôle. Il faut quand même dire aussi que, y compris dans les situations les plus tragiques, il y a une veine d'humour qui est extraordinaire, c'est-à-dire elle débusque.
Un peu cruel. Hein.
Oui, mais c'est très très drôle, quoi. C'est quand même très drôle.
Oui, pardon.
Non, je voulais juste finir sur cette écriture très très particulière. Et quand j'ai découvert B7, je me disais elle est pas du tout dans la littérature. Elle est pas femme de lettres. Moi, j'ai l'impression d'avoir un charpentier ou un rémouleur, quoi. Quelqu'un qui taille les phrases. C'est-à-dire quand on analyse son procédé littéraire, enfin son procédé d'écriture plutôt. En fait, ce sont des segments. C'est une écriture qui est totalement segmentée. On dirait une écriture d'asthmatique, quoi. Il y a un mot puis elle arrête. Encore un mot et elle arrête, encore un mot et elle arrête. Et sont ces verbes, sont ces lits, ces accumulations, ces grands trous, et ça va, c'est d'une rapidité folle en fait. Une écriture qui est très très rapide.
Oui, et alors il y a cet aspect segmenté, mais il y a énormément de boucles. Ça fonctionne par des boucles, c'est-à-dire il y a une musicalité extraordinaire. Alors là, ça c'est tout le travail de Cédric Julion sur les performances que nous faisons ensemble, notamment Grande Balade, mais j'ai découvert grâce à Cédric aussi, à quel point il y a une écriture musicale, proprement musicale, dans tous ces textes.
Et très bizarrement, la musicale boucle. Et pas théâtrale.
Oui,
du tout.
Absolument.
Et j'ai lu Ida, je me suis dit, mais c'est une écriture théâtrale. D'aujourd'hui. Et j'y ai cru longtemps. Et on s'aperçoit, même à la lecture, que finalement, et surtout à la représentation, que les textes de B7 résistent énormément à la représentation théâtrale, que ce ne sont pas des pièces de théâtre, qu'on ne peut pas faire des scènes,
on
des situations.
On ne peut pas les
jouer. Quand on les joue, on réduit ça à des piécettes conventionnelles. Donc, ce qui est très important, j'ai mis du temps à comprendre que c'était absolument pas théâtral, c'est du théâtre de papier, quoi.
Peut-être un mot sur cette voix toute particulière, sur cette façon qu'elle a aussi de, un peu comme dans son écriture, hein, au fond, hein, d'utiliser des mots assez simples et puis d'avancer de façon tout à fait inexorable, qui fait qu'elle nous assigne, hein, d'une certaine façon, et qu'on est obligé de l'écouter comme on est obligé de la lire. Hein. Cette voix, alors, ce qu'on a entendu là, hein, c'était en 67, donc elle a 49 ans, on a l'impression d'entendre une voix de centenaire. Elle a une voix quand même assez étonnante, hein, assez pointue et puis assez dure. Hein. Et je me demandais s'il y avait aussi une coïncidence entre cette voix-là et au fond ce qu'elle écrit et ce qu'elle est.
Elle aurait parlé autrement, il y aurait aussi une coïncidence, je pense.
Bien sûr.
mais il se trouve que là, il y a quelque chose qui est presque trop bessétien, presque, quand elle parle. Mais oui, comme j'ai découvert B7 en 98 et qu'en 98 c'était absolument le désert, je n'avais que les textes que j'achetais petit à petit comme ça. J'ai commencé par Ida ou Le Délire. Ensuite, j'ai trouvé tout à fait par hasard chez un bouquiniste dans le sud, suisse. Et puis, je suis remontée comme ça. Puis après, je me suis allée mettre à quatre pattes à la librairie Gallimard pour rafler tous les livres qui restaient. Mais j'ai pas Lily Pleur. Hein. C'est le seul que j'ai jamais pu lire d'ailleurs. C'est pour ça que j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que j'ai pas lu celui-là. J'ai commencé à faire une enquête, c'est presque un cluedo pour moi, enfin une enquête policière en lisant Bessette. On me disait, mais qui est cette femme? À quoi elle ressemble? Et j'avais quand même... Bessette est dans ses livres, elle est dans les pages, elle est dans les personnages, elle est même très présente, enfin c'est un jeu permanent en fait, un jeu fracturé, mais c'est un jeu permanent. Et je me disais, c'est quelqu'un qui est... C'est une petite femme, elle est rousse, elle est sèche... Il y a un rapport à la domesticité, à l'humiliation, toute sa vie, enfin, est inscrite, mais c'est totalement émietté, donc il faut aller recomposer le personnage et la figure de cette femme, et je me disais, elle doit avoir une tête de petit rongeur, voilà. Et ben c'est exactement, quand j'ai vu sa photo, donc Julien, grâce à Julien Doucineau, je me suis dit, c'est exactement comme ça que je pouvais me la représenter, un petit visage. Oui, têtu, pas sympathique.
Elle est quand même très belle, moi.
Elle est belle, je sais pas.
C'est pas
oui,
un petit
elle est.
Quand même.
Non, mais elle a un petit visage. Oui, on sent quelqu'un qui lâche pas, quoi.
Queneau, en 52, dans son journal, ouais, quand il rapporte sa rencontre avec Hélène Bessette, écrit, elle a un peu l'air d'un rat, toute petite, pauvrement vêtue, un bonnet blanc de laine sur la tête.
Mais là, je trouve que dans la voix, on a parlé de la dureté de la voix. Alors moi, c'est une voix qui me hante depuis que je l'ai entendue. Mais moi, je sens beaucoup de fragilité. Oui. Et en fait, elle me touche. Oui. Il y a un passage de cet entretien où, je sais plus, elle parle de ses livres à venir. C'est le moment où, évidemment, elle n'en fera plus beaucoup. Et où elle dit non, mais c'est pas grave, je vais continuer. Certains, je les éditerai moi-même. Et je sais qu'à chaque fois que j'entends ce passage, je me mets à pleurer parce que quand on sait ce qui s'est passé et quand on sent la détermination de cette voix dans toute sa fragilité, je crois que voilà, Bessette, c'est cette espèce de tension entre les deux.
Mais il y a peut-être aussi la voix des femmes de cette époque. Parce que moi, à l'âge d'être ma mère, à peu près, et ma mère parlait comme ça. Ma mère avait cette voix un peu fêlée, c'est une voix fêlée, c'est une voix qui n'a pas encore trouvé sa, je sais pas, son bon placement.
En tout cas, ce qu'on sent dans cette voix,
Claudine Huneau,
c'est que... elle ne se pose jamais en victime. Et ça, on le sent dans cette parole. Elle va continuer, et si on sait ce qui se passe après, c'est d'autant plus émouvant. Et de la même manière que dans toute son œuvre, elle est présente, c'est vrai, mais elle n'y est jamais en victime. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire, elle va énormément parler des femmes. Elle va énormément parler de la condition féminine.
Sans être féministe pour autant.
Sans être féministe. Elle n'est jamais militante. Et elle ne pose jamais en position de victime. Ça, c'est fondamental. C'est de là aussi que vient toute une dynamique de l'écriture.
Parce qu'elle est aussi très, très consciente de son œuvre. On l'entend
Bessette, elle a conscience de faire œuvre dès le départ. C'est-à-dire, je pense que ça, c'est important pour elle, c'est qu'elle pose un statut d'écrivain, enfin, il y a une posture d'écrivaine dès le départ. Je pense qu'elle n'a pas eu besoin qu'on lui dise « Écrivez, ne faites que ça hein. ». Je pense que ce n'était pas la peine.
Poggy, don't let him take me, don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I want to stay here with you forever, and I'll be glad. I love you, Poggy. Don't let him take me. Don't let him handle me with his hot hands. If you can keep me, I wanna stay here with you forever. I've got my man. Someday I know he is coming back to call me. He's gonna handle me and
La voix de Billie Holiday, I Love You, Porgy, extrait de Porgy and Bess, de Gershwin, enregistré en 1948, que vous citez, Laure Limongie, dans le petit essai que vous lui avez consacré en 2012. Et vous ajoutez, enfin vous citez en tout cas Hélène Bessette, « Je suis amoureuse de tous les grands artistes qui font des Porgy and Bess. Je suis au bord des larmes, encore une fois. » Alors, au-delà évidemment de l'homophonie, Bessette, qu'est-ce que ces larmes-là racontent ? Alors, les Mongis, pour vous.
C'est dans Suite
dans
Suisse,
Suisse, oui.
qu'elle dit ça, qui est un des très, très, très beaux livres, vraiment, d'Hélène Besset. Et c'est dans tous ces moments aussi. Alors, c'est ce rapport à la musique, d'ailleurs, qu'on vient d'évoquer, ou encore, Eric est très présent dans ce livre. Et je pense que c'est lié aussi à des moments d'errance, en tout cas d'attente, dans les fameux cafés suisses où elle boit des ovaux. J'avais fait un petit pèlerinage où j'avais essayé de faire un petit peu la même chose. Et voilà, je crois que c'est aussi lié à cette espèce de temporalité très particulière de Suisse. Aussi, sans doute, son rapport à la langue anglaise, qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui fait partie des choses très importantes pour elle. Et dès qu'elle le peut aussi, elle fait résonner, évidemment, la langue anglaise. Et puis, cette sublime mélancolie de cette chanson, bien évidemment.
Alors, justement... À propos de langue anglaise, à propos de littérature anglaise et peut-être même davantage américaine, on écoute Hélène Besset.
Ayant lu beaucoup plus, mon talent ou mon esprit ont évolué. Et je me suis notamment laissée influencer par la littérature américaine, comme beaucoup de Français, n'est-ce pas? Mais au lieu de me laisser influencer par Henry James ou James Joyce, qui sont du début de siècle, j'ai préféré Ezra Pound, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, et Solange G, qui m'inspire peut-être pas de l'admiration, mais surtout de la sympathie, parce que je trouve beaucoup de parenté entre l'effort que poursuit cet écrivain étranger à New York et l'effort que je poursuis moi-même. Donc, avant d'écrire Suite Suisse, j'ai, comme une collégienne, lu et relu ce livre, The Catcher in the Rye. J'ai noté les phrases qui me paraissaient les plus percutantes, les plus intraduisibles, très difficilement traduisibles en français. Et je ne les ai pas traduites puisqu'elles sont intraduisibles, mais j'ai essayé d'employer en français les tournures américaines, de telle façon que certains passages de mes livres, un passage en particulier qui raconte l'enterrement d'une personnalité, est extrêmement facilement traduisible en américain, parce qu'il n'y a aucune difficulté de grammaire. Il est l'américain français, il n'est pas le franglais, c'est le contraire. Il est l'américain français. Et il fait aussi penser par son espèce de rythme au jazz New Orleans, si on veut.
Donc on reparle encore de musique, donc toujours Hélène Besset, toujours au micro de Jean Paget, toujours en 1967, donc où elle évoque ce lien vraiment très particulier qu'elle va avoir, qu'elle a avec la langue anglaise, au point donc de glisser des mots, même des bouts de conversation, au point d'envisager même un roman bilingue, titré Parole pour une musique, je crois qu'il a évidemment été refusé par Gallimard, bon, introuvable donc. Qu'est-ce qui se joue pour elle dans ces emprunts à la langue, ou plutôt dans ce français emprunté à l'anglais? Parce que c'est une opération un petit peu singulière qu'elle fait faire à la langue.
C'est comme une possibilité d'écriture. Je crois que... Alors, c'est vrai que si par exemple on lit Gertrude Stein, on va voir aussi que Besset s'inscrit dans une tradition littéraire. Elle vient pas de nulle part. Si on lit « Trois vies » de Gertrude Stein, par exemple, c'est évident que là, on voit à quel point cette écriture, avec un travail de la forme, un travail de la boucle aussi, dont je parlais tout à l'heure, est venue irriguer aussi bien l'écriture de Besset, par exemple, que l'écriture de Duras. Je pense surtout Duras dans « La pluie d'été ». Mais Besset va en faire autre chose. Alors, c'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce que Besset va faire d'une tradition littéraire. C'est quelqu'un qui lisait beaucoup. Et d'ailleurs, elle insiste beaucoup dans beaucoup de ses écrits sur le fait que elle est énormément cultivée, en fait, sur un plan littéraire. Parce qu'elle a souffert de ce qui pouvait se dire sur elle, au fond. Et c'est pas une femme de ménage qui écrit comme ça tout d'un coup, quoi. Elle a été d'abord institutrice, elle a été gouvernante dans une maison bourgeoise à Londres, elle a été donc préceptrice dans des
en Suisse
dans des institutions privées, et c'est vrai que elle utilise, je vois par exemple dans La Route bleue, où c'est presque de une musique littéraire d'utiliser l'anglais.
Pour moi, c'est vraiment relié au roman poétique. à cette idée de forer le langage, de forer chaque mot, de c'est ça, c'est vraiment une sorte de verticalisation, je dirais, de son écriture. Et peut-être aussi, justement, en évoquant La Route Bleue, c'est aussi un horizon. Hélène Bessett, elle avait aussi un rêve américain. Et on sent, il y a quelque chose de bleu. Et c'est pas que le blues, c'est bleu comme le ciel bleu, et c'est bleu comme le blues, à mon avis, dans la langue anglaise et américaine pour elle. Donc ça ouvre l'espace.
Et ben voilà ce que ça donne, lu par Suzanne Flon, toujours en 67, toujours pour Jean Paget.
Désormais, ce livre est le livre de la porte. On n'en veut pas, on n'en veut plus, la porte. La porte! Aussi, je vais me promener pour mieux rêver. Un rêve sans porte. Je commence à en avoir assez des portes. Je vais à Lausanne me promener. J'aime Lausanne. Quand je serai riche, je reviendrai à Lausanne, puisqu'il faut être riche pour venir à Lausanne. Lausanne, c'est la ville riche, avec un lac riche, des maisons riches, avec des jardins riches, avec des tramways riches, avec des contrôleurs, des postiers, des policiers, des facteurs riches. Et tous vêtus de gris, qui est une couleur riche, avec des journaux riches, des princes riches, riches de tout, et de richissimes américaines, dans de richissimes palaces, soignés par de richissimes docteurs, jugés par de richissimes magistrats. Et tout ce monde roule, roule dans de richissimes voitures, à carrosserie bien ouvragée, immatriculée. Je croise de richissimes romanciers, mes collègues, qui ont choisi le Léman pour ne pas payer d'impôts. Je n'ai pas choisi le bord de l'eau. C'est ma richissime destinée qui me tient près de cette bande d'idiots. J'aime Lausanne, les peintures, les livres, les tea-rooms. J'aime par-dessus tous les week-ends, ils sont encore plus riches. Et j'aime le riche du riche. Depuis hier, à Paris, on ne dit plus week-end, on dit fin de semaine. Je suis à Lausanne, paradis verdoyant des rois de la banque, de l'industrie, de l'Afrique, de l'Amérique et de l'Arabie. Le paradis des calvinistes, s'il vous plaît, l'étable est loin, j'aime mieux vous le dire, n'est pas des moindres. J'aime les week-ends, ici à Lausanne. We speak English, you know, everybody speak English. It's a lovely spot, you see, with kings, big boss and all, and weekends are especially interesting. Ça roule, ça fonce, ça tourne à droite, ça tourne à gauche, ça marche, ça croise, ça débraye, ça file. Je suis riche, riche de mots. En regardant le carrousel des voitures, à 100 à l'heure, à 200 à l'heure.
Vous écoutez France Culture, La Compagnie des Poètes, par Manu Farid.
Un extrait donc de Suite Suisse, lu par Suzanne Flon en 67. Ouvrez-les et vous croirez vous trouver devant des poèmes. Lisez-les et ils auront l'air de vous proposer des romans. C'est ce qu'écrit Bernard Noël dans la postface, hein, je crois, du premier texte de Bessett que vous publiez chez Léo Cher dans la collection L'Orly. Voilà, comme ça, je l'ai dit en entier, L'Orly Mongy. Et il ajoute, Bernard Noël, disons plutôt qu'ils sont lisibles comme des romans, mais que leur allure de poème y introduit une accélération troublante. En réalité, ils opèrent un tressage des deux genres qui les conduit à en inventer un troisième, dont me voilà tenté de dire qu'il est aux deux précédents ce que les premiers films sont à la manière de raconter une histoire. Ni autofiction, ni nouveau roman, hein, auquel on a quand même été tenté plusieurs fois à tort, hein, dirais-je, de la rattacher, ni avant-garde, hein, on l'a entendu tout à l'heure. Elle plaide donc pour ce qu'elle appelle le roman poétique, et c'est un peu ce que décrit Bernard Noël, hein, dans ce que je viens de lire. De quoi est-ce qu'on parle exactement lorsqu'on parle de roman poétique, ou en tout cas lorsque Bessette parle de roman poétique? Est-ce qu'on parle de l'avenir du roman? Est-ce qu'on enterre le roman?
Elle en parle notamment dans le résumé, donc qui est son manifeste littéraire. Je pense qu'il y avait une sorte de ras-le-bol, elle aussi en tant que lectrice, de se rendre compte qu'elle, elle le dit telle qu'elle, hein, qu'elle avait l'impression que par rapport à d'autres arts, les arts plastiques ou la musique à son époque, le roman restait dans une espèce de forme extrêmement classique, très très ennuyeuse. Je pense qu'elle pensait évidemment à toutes les expérimentations des peintres de l'époque, mais aussi de la musique. Elle se disait, mais c'est étrange quand même, le roman, la littérature, l'écriture reste comme ça, avec des espèces de moyens d'un autre temps. Et donc, elle a essayé de trouver... C'est pour ça que Noël, tu parlais tout à l'heure de son côté un peu ouvrière du langage, artisan, artiste, artisane. Voilà, on sent bien qu'elle met les mains dans le moteur et qu'elle se dit, bon, voilà, qu'est-ce que ça va être moi, mon moyen de renouveler tout ça, parce qu'on n'en peut plus. C'est une forme éculée, et qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, elle invente ce fameux roman poétique. Bernard Noël et Noël Renaud ont bien parlé d'accélération. C'est ça qui crée cette espèce de moteur un petit peu aussi emballé dans sa langue. Et c'est ce qui fait aussi que beaucoup de gens aussi peuvent être sensibles à ça. On n'a pas encore parlé de Claude Royer-Journoux. J'en profite à cette occasion pour parler de Claude Royer-Journoux, qui est l'un des très grands passeurs d'Hélène Bessette, voilà, qui moi-même me l'a fait connaître. Et qui a été sensible à ça, dans sa langue, à cette espèce de troisième forme qu'évoque Bernard Noël, qui invente finalement une troisième voie.
Oui, et Noël Renaud, en fait, elle libère le roman de ses carcans narratifs et typographiques, et elle charge la poésie du déroulé du roman, enfin, du déroulé narratif. C'est-à-dire qu'elle a... donc, c'est pas La Légende des siècles revue par Hélène Bessette, c'est-à-dire qu'elle... Le roman poétique, j'aime pas trop, en fait, moi,
non, il faut le définir.
Il faut le définir parce qu'on dit un roman poétique, alors on dit oui, alors c'est une sorte de coulée, ce serait comme une coulée lyrique ou poétique. Alors, c'est beaucoup plus sanglant que ça, c'est beaucoup plus novateur, c'est beaucoup plus intriguant.
À propos d'un de ses livres, elle dit c'est beaucoup plus qu'un roman.
C'est beaucoup plus qu'un roman. Et c'est aussi, ailleurs, c'est pas de la poésie non plus. On est... alors, de temps en temps, on peut se dire, ah oui, ça, ce sont des effets poétiques. Elle a des effets de langage, des effets d'image, une image qui apparaît comme ça. Et puis, très
coupe,
vite, elle casse.
Mise en page,
c'est-à-dire qu'elle ne s'attarde jamais. Elle ne s'attarde sur aucune forme. Donc, elle casse, elle revient. C'est-à-dire, c'est spiralé, mais en même temps, c'est spiralé, mais ça s'enfonce pas dans le, ça va part pas nulle part. C'est-à-dire que ça redémarre. C'est-à-dire que c'est comme une, comme on dit, une force une centrifugeuse, en fait. Et les effets typographiques qui sont pour quelque chose, parce que elle invente quelque chose qui est, en plus, voilà ce que je voulais dire aussi, c'est que l'écriture de Bessette est extrêmement concrète. À aucun moment elle ne fait des effets poétiques, des calligrammes ou des choses comme ça qui n'auraient aucune incidence sur le récit.
La question, Claudine Nunon, elle est importante parce que Bessette le dit elle-même. Elle dit, en gros, on n'en a pas fini avec le roman, quoi. C'est-à-dire. On peut le réinventer. Et donc, quand elle choisit, même si nous, ça nous pose un peu problème dans les représentations qu'on en a, ou les a priori qu'on peut avoir sur l'expression, roman poétique, pour elle, c'est important, parce qu'au fond, elle dit, il y a une voie encore à inventer, et il faut pas laisser tomber le roman. Elle insiste beaucoup là-dessus. Alors, il y a peut-être un élément qui est...
C'est peut-être le romanesque qu'elle laisse tomber, au fond, hein, plus que le roman.
C'est juste ça. C'est-à-dire que, et c'est la question du sens, c'est-à-dire que elle ne pousse pas le sens comme on s'y attendrait, en fait. Elle nous éjecte en permanence, c'est aussi ça, il y a un jeu de séduction avec elle. Elle nous éjecte de deux choses, c'est-à-dire on croit avoir compris que ça se déroule de telle et telle manière et bim, on se prend une porte nous aussi, quoi. Et il faut aller dans une autre direction. Ou quand on se dit, ah là, elle parle d'elle, ah oui, c'est vraiment Hélène Bessette, etc., etc. Quand elle parle de Fifi Bess, Fifi Bess Dotti, enfin, etc., dans Suite Suisse, on se dit, ah oui, c'est elle. Puis tout d'un coup, elle nous envoie quelque chose... Ah non, non, c'est pas du tout elle. Où on croyait reconnaître un de ses fils, par exemple. Ah non, non, il a pas le même nez, c'est pas ce regard-là, etc. Donc, en fait, elle joue énormément avec nous. Je pense que si, autour d'une table, là, on disait qu'est-ce que chacune de nous dirait de ce que signifie pour elle, mettons, Suite Suisse, il nous faudrait des heures pour arriver à nous réunir. C'est ça, c'est quand tu dis centrifugeuse, oui, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de constellation de sens qui s'ouvre à partir de ce qu'elle écrit, quoi.
Et je crois que c'est vrai que c'est important de ne pas laisser à penser que roman poétique, ça voudrait dire un roman encore plus joli. Voilà, il n'y a pas de joliesse. Hein. Enfin, je crois qu'on l'a un peu compris à ce stade de l'émission.
Quand tu dis c'est sanglant, c'est
vraiment une tradition poétique, justement, de la poésie matérialiste, d'un forage du mot. Et justement, c'est ce qui lui permet, comme disait très bien Claudine, de sortir du sens et de se concentrer sur tel personnage, sur telle sonorité. C'est ce qui lui confère une liberté intense.
La littérature d'avant-garde est une littérature de décomposition. Or, dans tous mes romans, C'est en quelque sorte du réalisme classique, parce que malgré leur apparence d'avant-garde, ils présentent des personnages qui sont des types, comme dans la littérature classique. Lily pleure, c'est une mère abusive. 20 minutes de silence, c'est un fils dénaturé. La tour sont deux jeunes gens qui pratiquent la société de consommation. Le n'avez-vous pas froid, qui a été remarqué, et le drame de conscience d'un homme d'église, sont des personnages.
Alors, ce sont des personnages. Alors, c'est peut-être ça aussi la question qu'il faut rattacher à son rapport ambigu et à la tradition littéraire et au roman et probablement au débat en cours aussi, parce qu'elle n'est pas la seule à ce moment-là à réfléchir quand même à la question du roman, loin de là. Ces personnages qu'elle décrit comme des personnages types, qu'elle décrit comme étant elle-même des personnages réalistes, qui semblent être un peu plus complexes que ça. En tout cas, alors Limongis, c'est ce que vous évoquez dans votre essai. Vous, vous y voyez des personnages de papier, ou en tout cas des marionnettes, des personnages absents aussi, hein, peut-être qu'il faudrait aussi parler de ça. Alors, vous l'avez rapidement évoqué, Claudine Huneau, mais cette façon qu'elle a aussi souvent d'aborder un personnage par son absence ou en son absence dans plusieurs de ses romans. Hein, je pense à Ida en particulier, hein, puisque le personnage commence par mourir et puis finalement est approché petit à petit uniquement par son entourage. Et donc tout s'écrit et tout se déroule évidemment en son absence. Qu'est-ce que c'est, la question est un petit peu énorme, je m'en excuse, hein, qu'est-ce que serait ou qu'est-ce que c'est qu'un personnage bessétien?
C'est simple pour moi, enfin c'est simple.
Je pense que
la réponse... Non mais ma réponse va être assez courte. Les personnages de Bessette ne précèdent pas l'écriture. C'est l'écriture qui les constitue. C'est-à-dire que c'est parce que c'est écrit comme ça qu'on va avoir un jeune couple qui va se jeter dans la société de consommation. Et en même temps, on va dire ça, c'est aller chercher la pépite au milieu des cailloux, parce que les cailloux sont plus nombreux que la pépite. Et donc, on est obligé, on les retrouve. Il y a toujours ces passages d'ombre et de clarté, et les personnages, ils sont fracturés. Et ils sont fracturés comme les auteurs de théâtre ont commencé à fracturer la dramaturgie, les personnages de théâtre, comme etc., dès les années 50. Donc, elle est là aussi, je dirais, dans un processus purement dramatique, je dirais, de disparition du personnage. C'est-à-dire que le personnage n'est plus central. Le personnage devient un avatar de l'écriture. Et c'est son écriture qui, finalement, fabrique ces stéréotypes, qui fabrique ces personnages qui ont en général aussi souvent des fonctions. La fiancée, l'architecte, l'ingénieur. Ils ont des noms qui sont quand même assez souvent, qui sont assez fluctuants. Alors on a Bessie, Bess, Dottie, Nadia Nu, Nadia. Enfin, ils ont des noms qui sont absolument pas du tout réalistes, hein, qui sont assez impossibles et qui sont plus symboliques que ça. Et donc, elle opère par fonction, en fait, et pas du tout par psychologie. Et comme on a quitté la psychologie, on a quitté le bazar, parce qu'elle adore ce mot, le bazar. Moi aussi, j'aime beaucoup
ce bazar,
mot qu'on a oublié. Pour un bazar, c'est un bazar. Donc, tout ce bazar, ce fatras psychologique du personnage qu'on va mener de A à Z et qui va se retrouver transformé à la fin du texte, chez Bessette, il faut oublier ça tout de suite.
Ça veut dire qu'il ne faut pas la croire quand elle dit que ces personnages sont des personnages réalistes dans le sens où on y vit, on y souffre.
Là, je ne crois pas.
Mais c'est concret. C'est ça qui est étonnant. C'est qu'en même temps, c'est sécrété par l'écriture, en même temps, c'est concret. Mais elle a des déductions d'une efficacité assez extraordinaire. Dans 20 minutes de silence, c'est un détenu puisqu'il est en prison. Ou alors elle va dire, c'est un grabat puisque c'est une cellule. Donc, à chaque fois, on a une déduction qui sort de l'écriture elle-même. Mais ça n'empêche pas qu'on suive dans 20 minutes de silence où il y a cet enfant qui aurait tué son père, mais c'est peut-être aussi la mère qui a tué le père, on ne sait pas, cet enfant, on va quand même l'accompagner jusqu'au bout et on va être très, très ému pour ce que devient cet enfant. Donc, ils ne sont pas abstraits. Alors, ils ne sont pas réalistes, ça c'est vrai, mais ils ne sont pas abstraits.
Je crois qu'on en revient à l'autorité de l'auteur. C'est tout simplement ça, c'est qu'elle énonce clairement, voilà, c'est mon univers, là, c'est mon monde, effectivement, concrète que soit la situation, on est dans un espace bessétien.
Alors, il y a des moments, c'est tellement drôle. Claudine, je pense à Mère calme, voyage heureux, qui est un des inédits, qui est extraordinaire, et où on a, par un moment, il y a un personnage qui est là, on le suit pendant un certain temps, puis tout d'un coup, on a l'impression que c'est lui, puis elle dit « Ah non, il n'a pas le même nez !» Et donc, tout d'un coup, hop, elle tourne, quoi. elle fait des espèces de volte-face, comme il va y avoir un enfant, puis tout d'un coup il meurt, il revient, ça va être l'enfant 2, il y aura l'enfant 3, il y aura l'enfant 4. Donc des fonctions.
Des fonctions, oui. Et puis elle crée quand même une condition scénographique, je dirais, de l'adversité. Enfin, ils sont face à de l'adversité en permanence. Et donc ces personnages se constituent vis-à-vis de cette... Ils sont vaillants, hein. Ils sont valeureux quand même. Ils sont vaillants, ils sont teigneux, ils sont coriaces, ils sont pas forcément gentils, etc. Ils sont quand même... Même si c'est des petites adversités, enfin quand on lit Materna, ou on s'aperçoit que c'est vraiment très quotidien même. Il n'y a pas... Oui, ce que tu dis, c'est très concret. C'est-à-dire que chaque situation est concrète, mais l'adversité a aussi... On a l'impression que c'est son mode, nos modes de travail. Elle a devant elle un mur contre lequel qu'elle doit fracasser pour essayer de sortir avec sa littérature, avec son écriture, avec ses phrases. Elle fait des phrases pour, c'est des perceuses, hein. C'est vraiment pour ça que je dis que c'est un maçon, quoi. Je sais pas ce qu'elle fait.
Tu me fais Claudine penser, là, que c'est peut-être cette adversité qui crée le roman, en fait.
Oui.
L'adversité fait roman.
Et c'est la vieille idée du conflit, mais elle est beaucoup plus, elle est beaucoup plus,
c'est une nécessité
performante chez Bessette que le vieux conflit.
Alors tragique. Cette adversité, elle est peut-être au fond aussi à l'œuvre au moment de la lecture. Laure Limon-Givoux, vous en parlez aussi toujours dans ce même essai sur Hélène Bessette. Hein, vous expliquez le plaisir que vous avez à la lire en public. Parfois même à la lire seule chez vous, à prétexter une répétition pour pouvoir justement se remettre Bessette en bouche. Alors Claudine Nuno, vous aussi évidemment, vous l'avez lu, et puis Noël Renaud maintes fois aussi en lecture publique. Et je me demandais justement ce que ça demandait au lecteur.
Je pense qu'on aura sans doute trois réponses, mais moi quand je la mets en voix, alors moi je lis en tant qu'écrivain, c'est pas mon métier par ailleurs, je veux dire, je viens pas du théâtre, mais en tout cas quand je la mets en voix, ce que je ressens tout de suite, c'est cette espèce, alors moi ça me rend encore plus dynamique. Moi mes propres textes, je les lis pas forcément avec une sorte de débit, c'est au contraire, j'ai une sorte de, voilà, je suis beaucoup plus dans des pianos, pianissimo, et alors dès que je me mets à lire les textes de Bessette, soudain je sens le besoin de faire sortir cette énergie. Donc c'est une lecture qui est assez, je sais pas, même physiquement, où je me déplace, où il y a quelque chose comme ça, justement, on revient à l'autorité, mais d'un petit peu autoritaire. Voilà, ça réveille un peu. Alors, il y a aussi ces effets, évidemment, de lecture qui sont dans le texte, avec les capitales, la mise en page particulière. Il y a beaucoup de passages qui sont criés, les personnages crient, ou alors ils chuchotent. Il y a beaucoup de, comme ça, on en revient à la musique, hein, il y a beaucoup d'indications, effectivement, mais c'est cette espèce d'énergie intense, quand même d'une certaine rapidité de la lecture aussi. Alors, il faut savoir jouer avec, mais voilà, c'est assez rapidement emballé. C'est le cas, voilà, dans Garance Rose et dans plein d'autres textes. Mais voilà, cette espèce de quelque chose, j'allais dire un peu dur, pas vraiment dur, mais voilà, qui s'impose en tout cas.
Claudine Nuno, dans Si, elle dit je ne peux écrire qu'en criant. La dimension du cri est dans pratiquement tous ces textes. C'est vrai. Fait. Alors, qu'est-ce que ça suppose? Alors d'abord, ça dépend sur quel texte on est. Donc moi j'ai travaillé.
Parce qu'on n'a pas parlé de ça effectivement. C'est-à-dire qu'effectivement l'écriture bouge hein, quand voilà, même entre 53 et 73.
Énormément. C'est-à-dire quand moi je fais une performance sur la grande ballade. Bon, d'une part, je vous ai dit, je travaille avec Cédric Julion, musicien. Pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que il y a vraiment un tissage. On ne sait pas par moment si le mot sort de sa musique. Cédric est flûtiste et il fait un traitement du son très 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 subtil. Par moment, il parle même dans le son de la flûte. Et je ne sais pas par moment si la parole de Bessette naît de son son ou si son son à lui naît de l'écriture de Bessette. Alors, dans Grande Ballade, qui est une écriture tout à fait différente de
totalement
ce que Laure évoquait, ou de Ida, comme tu en parlais, Noël. Grande Ballade, on est embarqué dans quelque chose de très étrange. C'est une traversée du Pacifique qui prend sa source dans cette traversée du Pacifique qu'elle fait quand elle rejoint son pasteur de Marie en Nouvelle-Calédonie. Et elle va justement dans ce lieu dit qui s'appelle Grande Ballade, qui se trouve, c'est une baie sur la côte est de la Nouvelle-Calédonie. Et donc là, on est dans des effets de saturation de sensations. Et ce qui m'a fait drôle un matin, c'est que je descends dans le métro, je vois des affiches 4 par 3 pour une agence de pub, et c'était Bonheur à volonté. Or, c'est une des... C'est récent, hein, c'est en 2017. Je me dis, c'est dingue quand même. Dans Grande Balade, à un moment, Bessette dit ça. Bonheur à volonté, quoi. Et là, il s'agit de... Enfin, c'est une sorte de bain complet dans l'écriture. C'est ça aussi qui est très étonnant chez elle, hein.
Noël Renaud, hein, sur la lecture.
Justement. Sur la lecture, je suis comme Laure. Moi, j'ai beau écrire pour le théâtre, je suis pas comédienne. Donc, c'est aussi en tant qu'auteur que je suis intervenue. Et c'était aussi, quand je lisais, dès que j'ai lu Bessette en privé, j'avais ces occasions de faire des débats ou d'arriver, de faire des lectures de mes textes ou autre chose. On m'invitait et donc j'en profitais toujours pour caser Bessette. Alors, après, voilà, j'essayais de contaminer les gens.
Vous êtes tous pareils.
Je faisais VRP, avec Bessette. Je faisais un peu la VRP de Bessette et donc des gens se mettaient à ce moment-là à travailler, m'envoyaient des informations, mais nous on a aussi travaillé à ça, etc. Et je lisais Bessette et Bessette elle a une forme d'oralité évidente et en même temps, comme elle est perverse, parce que c'est pas une écriture qui est destinée effectivement au corps ni à la voix, à un moment donné, on est bloqué parce que là, tout d'un coup, on n'a plus rien à se mettre sous la dent que des verbes substantivés.
Ouais.
Et les verbes substantivés, en fait, en général, le verbe actif, quand le verbe est actif, c'est lui qui fait bouger la phrase, c'est lui qui rend la phrase dynamique. Et quand on a une succession d'infinitifs, on est bloqué, c'est-à-dire qu'on n'avance plus. On est là sur une espèce de fonction, de on émet une liste de choses comme ça. Et c'est là que peut-être que de temps en temps la poésie arrive, c'est-à-dire qu'elle coupe elle a vidangé le roman, la parole, etc. Puis là on se retrouve bloqué, on a une espèce de grosse masse devant nous, on sait pas quoi en faire. Donc il faut anticiper. Donc lire Bessette, c'est anticiper, c'est faire effectivement ce que fait magnifiquement Suzanne Flon. Quand on l'entend, mais en même temps, on a l'impression d'entendre Bessette. Alors, c'est quand même très étonnant. Et c'est, quand on écoute, ce sont des phrases. La phrase part d'un point, elle va à un autre. Bon, ça, c'est absolument normal. N'importe qui doit bénéficier de ça. C'est-à-dire qu'elles appuient toutes les deux sur les finales. Mmh. Si on remarque, elles appuient totalement sur la finale. Jamais la phrase ne tombe dans une sorte de brouillasse, comme ça. Alors, lire Bessette, c'est s'attacher, effectivement, au segment de la phrase, voir jusqu'où ça va, voir comment c'est articulé. S'il y a une ponctuation, il n'y en a pas beaucoup, mais elle en met quand même. S'il y a des majuscules, s'il n'y en a pas, si on part à la ligne. Mais on ne peut pas non plus respecter quand on la lit, parce que ça va trop vite aussi. On ne peut pas respecter toutes les modalités typographiques qu'elle invente. Quelquefois, on oublie que ça, il y a un retour à la ligne. Et puis voilà, après, on lit comme de la poésie aussi. Hein. On n'est pas obligé d'être dans les clous conventionnels. Mais c'est vrai que c'est un travail qui fout la trouille. Ça fait peur quand même.
Tu vois, tu parles des retours à la
Claudine
ligne.
Claudine Huneau.
Et en fait, elle utilise énormément le point. Et alors, il y a une chose que Éric Brabant a dite au colloque.
Son fils
aîné, qui donc est celui qui a le plus vécu avec elle, et qui était compositeur. Et Éric disait, le point, dans l'écriture de ma mère, c'est un non, c'est-à-dire N-O-N. C'est-à-dire, j'énonce ça, non. J'énonce ça, non. J'énonce ça, non. Et si on commence à penser... alors, c'est pas vrai, là encore, ce que je viens de dire, c'est pas vrai dans Grande Balade, par exemple. Hein, mais ça peut être vrai dans Ida, ça peut être vrai dans Si, ça peut être vrai dans 20 minutes. C'est pas systématique non plus. Mais quand il a dit ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant de poser comme hypothèse. Et ça, visiblement, c'était une chose dont il avait parlé avec sa mère.
Oui, elle clôture ses phrases.
Renaud. Hein.
Elle clôture ses phrases. Elle clôture et donc ça lui permet de passer très vite à autre chose en fait. Mmh. Il y a jamais de suspens. Il y a pas de suspens chez Bessette.
Même en fait, même le retour coupe, à la ligne. Vous avez raison, c'est pas de la coupe.
C'est une coupe, c'est des coupes franches. Non, c'est des coupes franches. C'est-à-dire que voilà, on clôture ce segment et on passe à un autre segment. Mais il y a très très peu, ou alors je me souviens pas, mais il y a très très peu de suspens, de hiatus, de choses laissées comme ça, un peu en l'air à l'abandon.
Il y a pas de trois petits points arrière-plan, arrière-pensée, pas du tout. C'est une écriture agit immédiatement. On dit ça, c'est effectif et ça agit. C'est un acte, pratiquement.
Il n'y a rien qui précède. Rien ne précède.
Tout à fait. Noël Renaud, pardon, hein, puisque vous venez de dire que lire Bessette est un travail qui fout la trouille. Hein. Est-ce que vous voulez bien nous faire un petit bout de lecture, s'il vous plaît?
Je suis désolée, mais ça fait très longtemps que j'ai pas lu de Bessette, donc ça va être, c'est un extrait de Garance Rose. Lycée français de Londres, Institut français du Royaume-Uni, Queensberry Place, London, SW7, Kensington 6211, Madame, je vous remercie de votre lettre. Le recrutement des institutrices, ministère des Affaires étrangères, Quai d'Orsay, Alliance française, Raspail, Solferino, escalier, porte, bureau, guichet, corridor, ascenseur, multichambre, offres alléchantes, Brésil, Amérique du Sud, Indochine. Alliance française, Fédération française de la publicité, fondée en 1906, Carnot 1240, Villiers, Monceau, escalier, porte, bureau, guichet, banquette, couloir. Madame, je m'excuse de ne vous accuser de réception de votre lettre du 10 juillet qu'aujourd'hui ou aujourd'hui seulement. Le service de placement, 661 State Street, Phone, Edison, Connecticut, chère Madame de Garance. At this writing, it becomes very difficult for anyone. Centre social, téléphone 268 50 20, promenade Saint-Antoine, Geneva. CCPL 761, service de placement N, bar, ref.d.d, bar 9b. Madame, je m'excuse d'avoir pas répondu plus tôt à votre lettre. Amsterdam, chère madame, quelle est exactement votre intention? Pouvez-vous faire le ménage? The British Council, patron, Her Majesty the Queen. Solferino 89-31, Telegrams, Brit, Count, Paris, référence, Madame Rose de Garance has asked me to write a note to support her application for the post of resident French and Needlework, Saint-Georges School, téléphone Ascot 279. Ascot, chère Madame de Garance, thank you for your letter, I'm sure that you could do the work, but the post is not meant for just suitable for a student. Le maire de la ville de Seine-et-Rhône, chevalier de la Légion d'honneur, JPB, bar, DW, secrétariat général, Madame de Garance, Hôtel de la Paix. J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 18 courant. Vous sollicitez un emploi de femme de service. Actuellement, aucun poste n'est libre. Agréé pour le maire, l'adjoint.
Merci beaucoup, Laure Limongi, Noël Renaud, Claudine Huneau. Merci à toutes les trois. C'est presque la fin de cette émission, puisque je vous laisse la conclure entre vous et sans moi. Alors, excellent après-midi à toutes et à tous.
Je pense que son écriture est toujours au présent, c'est-à-dire qu'elle est tellement vivante, elle est tellement concrète, elle est tellement là maintenant, c'est-à-dire que le futur n'est toujours pas écrit, enfin, et le passé disparu. Donc, elle est exactement à un endroit de, comme tu dis, Laure, on peut pas la dater, c'est-à-dire que peut-être que dans 50 ans, son écriture n'aura pas connu de postérité. J'en sais rien, on peut pas prévoir ce qui va se passer. Elle a quand même des résurrections difficiles hein, depuis le temps qu'on a naissé.
J'ai une boule de cristal, je vois que c'est la bonne.
Ça énerve beaucoup les gens aussi, parce que au début, comme on était peu, on disait c'est une secte. Non, simplement, quand on découvre une telle œuvre et qu'on se dit mais pourquoi cette œuvre a été engloutie, on fait de l'archéologie en fait.
Et puis, il y a une énorme matière à découvrir encore, quoi. Tu vois, quand on pense six romans poétiques inédits qui sont très forts, c'est quand même incroyable ça, qu'il y ait cette matière littéraire encore à découvrir. Tu vois.
Mais pour parler justement d'identification. Là où je m'identifie à Bessette et l'os le douloureux, c'est ce qui se passe entre 72 et 2000. Oui. C'est-à-dire ces années d'ostracisme où elle a été fichue dehors. Là, je me dis que c'est une souffrance.
Et moi, ce que je pense, c'est qu'elle a vécu vraiment par l'écriture. Et ce qui est assez remarquable, c'est que à partir du moment où elle arrête vraiment d'écrire des romans poétiques, donc où cette structure formelle va s'arrêter, moi, je sens qu'à ce moment-là, la psychose prend le dessus. C'est-à-dire, elle est débordée par quelque chose d'intérieur, notamment un flot de la mémoire. Et là, on part dans une graphomanie.
Mais je vous rappelle aussi ce qu'on dit les enfants, c'est que juste avant de mourir, la dernière phrase qu'elle a dit, c'est « ça n'écrit plus dans ma tête ».
C'est ça, ça n'écrit plus.
Et ça voulait dire que c'était fini.
C'était fini, oui.
La Compagnie des Poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Merci à Thierry Beauchamp pour la préparation, à Claire Levasseur pour la technique et à Anne Despelchin pour la réalisation. Merci à Laure Limongi, Noël Renaud et Claudine Huneau. Et s'il fallait le redire encore, lisez Bessette. C'est aux éditions du Nouvel Attila Othello. Et si vous avez de la chance, aux éditions Léo Cher dans la collection L'Orly. Et si vous avez encore plus de chance, aux éditions Gallimard, mais là ça commence à devenir très difficile. Vous en trouverez le détail sur le site de l'émission, à réécouter ou podcaster sur franceculture.fr.